les jours, les mois, les années. Une nouvelle de l'écrivain Yann Lianke. Lecture proposée par Christine Fusarelli. Épisode numéro 9. Le loup de tout à l'heure, aussi gros que l'aveugle, avançait en tête. Le groupe s'arrêta brusquement devant la sortie du ravin en voyant l'aïeul apparaître. Cela ne dura qu'un court instant. Le meneur, tournant la tête vers les autres, leur commanda d'avancer, téméraire, vers l'homme. L'aïeul sentit son corps flancher comme sous le coup d'une détonation. Il savait qu'il était tombé dans le piège des loups. Il se dit « Je n'aurais pas dû prendre de pain et je n'aurais pas dû me reposer au bord de l'étang. Si seulement j'avais accéléré le pas, je marcherais maintenant sur l'arête de la montagne et les loups ne pourraient pas se jeter sur moi. » Tout en ruminant ses pensées, il feignait un calme imperturbable. Sans se presser, il déposa les seaux sur une surface plane du terrain, retira tranquillement la phalange de chacune des anses de seaux, pivota sur lui-même, puis, bâton en main, avança à la rencontre des loups, l'air tout à fait détaché. Il marchait posément, les crochets de la phalange se balançaient devant et derrière lui, les loups venaient à sa rencontre, il marchait à leur rencontre. Il parcourut rapidement la distance d'une bonne vingtaine de pas et continua à avancer ainsi, l'allure décidée, comme s'il voulait d'un trait se retrouver au milieu des loups. Il continua jusqu'à ce qu'une bonne dizaine de pas le sépare de la meute. Les loups, impressionnés par le calme qu'il laissait paraître, avaient ralenti, puis s'étaient arrêtés. Ils se tenaient immobiles devant la sortie du ravin. L'aïeul continuait à marcher, droit sur eux. Deux loups, postés au devant de la meute, reculèrent. Un peu rassuré, l'aïeul avança de plus belle. Son pas vif et triomphant retentissait. Quelques morceaux de pierre de sable se détachèrent des parois sur son passage. Le regard de la meute braqué sur lui, il avança jusqu'à un endroit très étroit, un goulet d'étranglement. Là, il plissa les yeux afin de mesurer l'escarpement, puis s'arrêta. Il choisit ce passage, pas plus large que deux pas, parce qu'il savait que la meute n'y passerait pas, que les loups ne pourraient pas l'y encercler. Il se tint là, juste au milieu du goulet. De chaque côté de lui, les parois se dressaient l'une en face de l'autre et c'était tout. Comme il s'était empli le ventre d'eau, la faim et la soif s'étaient dissipées. Il pensa « Je n'ai qu'à rester là, bien droit, surtout me tenir bien droit, et peut-être que j'en sortirai vivant. » Les derniers rayons du couchant disparurent, la nuit tomba, et l'espace à l'intérieur du ravin prit la teinte de la fourrure des loups. Du calme nocturne émanait un léger crépitement qui commençait à descendre dans le ravin. L'aïeul se mit à compter ses loups qui n'avaient pas encore compris pourquoi il était si serein. Au total, il y en avait 9, 3 très gros, 4 de la même taille que l'aveugle, et encore 2 petits, probablement nés dans l'année. L'homme se tenait debout comme un arbre planté là. Les yeux verts des loups brillaient dans la nuit, on aurait cru voir des émeraudes suspendues dans le vide. Un silence mortel, noir comme la chaîne montagneuse, pesait au-dessus de leur tête et de celle de l'aïeul. L'aïeul ne bougeait pas. Il ne faisait plus aucun bruit. Les loups semblèrent comprendre qu'il avait avancé promptement pour pouvoir atteindre ce goulet d'étranglement, et l'un d'eux se mit à pousser de longs hurlements sombres et rouges. Après quoi, la meute s'approcha. L'aïeul brandit aussitôt la phalanche. La meute s'arrêta. Sept ou huit pas séparaient l'homme des loups. À la faveur des derniers rayons, avant l'obscurité totale, il remarqua que l'un des trois plus vieux loups, qui se tenait au milieu des autres, avait l'oreille gauche blessée et qu'il boitait. L'aïeul commença à le fixer des yeux. Ils demeurèrent tous ainsi un moment, figés sur place, puis le vieux loup émit un long hurlement rauque et la meute reprit sa progression vers l'homme. Quand ils ne se trouvèrent plus qu'à cinq ou six pas, l'aïeul agita sa phalanche au-devant de lui, puis, la maintenant fermement, il la braqua droit au milieu de la meute sur le roi loup. Le groupe s'arrêta de nouveau. L'aïeul fixait le roi loup tandis que les derniers rayons du jour balayaient la meute. Parmi ces neuf loups, ceux dont les yeux avaient le plus d'éclat n'étaient pas les trois plus âgés, ni les quatre de taille moyenne, mais les deux jeunes qui se tenaient alternativement devant ou au milieu des autres. Dans la clarté de leurs regards, une eau limpide semblait se refléter, brouillée cependant par un sentiment de frayeur. De temps à autre, ils tournaient la tête en direction du roi loup, lequel émettait de longs hurlements noirs et rouges dont eux seuls comprenaient le sens. La lumière s'évanouit tout à fait et l'obscurité descendit pour tout recouvrir. Dans cet étau noir, les yeux des loups luisaient comme des eaux d'émeraude. L'odeur des loups se répandit depuis l'entrée du ravin. C'était une odeur différente de celle des rats, plus ténue et pourtant plus distincte. Elle n'avait pas l'épaisseur dense et gluante de la précédente. L'aïeul songea au pied de maïs. Il pensa que les taches de sécheresse avaient peut-être déjà gagné les feuilles entières, peut-être même la tige. Il pensa, il suffit que la tige ne soit pas atteinte, que le sommet de la plante soit encore bien vert, et on pourra encore la sauver. Tout à ses préoccupations, il entendit claquer la lanière d'un long hurlement du roi loup. Il en frissonna, cligna des yeux un instant et se dit à lui-même « Tu ne dois penser à rien d'autre qu'au loup, sinon tu finiras dévoré. » Fort heureusement, les yeux verts des loups n'avaient rien perçu de sa distraction, tandis que, sur un hurlement du roi, la meute reprenait sa progression vers l'aïeul. Celui-ci agita le bâton. Le bruit glacial des crochets heurtant la roche retentit le long des parois, et les loups, qui avaient avancé d'un pas, reculèrent de nouveau. La lutte se déroulait comme sur un pont suspendu entre leurs regards. Le pont oscillait, grinçait à chaque battement de paupières. L'aïeul ne pouvait voir où se trouvaient les loups. Il fixait les perles vertes et immobiles de leurs yeux. Si elle bougeait, il agitait aussitôt la phalanche, les contraignant à faire marche arrière. Dans cette lutte, temps et silence s'écoulaient avec la lenteur d'un bœuf tirant une charrette, péniblement. La lune apparut, aussi ronde que les yeux des loups, pleine comme au 15 ou au 16 du mois. Une brise fraîche soufflait doucement. L'aïeul sentit un ver de terre ramper sur son dos. Il savait que c'était la transpiration. Crampes et courbatures criblaient ses pieds et remontaient pour envahir le reste de son corps. L'immobilité avait épuisé toutes ses forces. Jamais il n'avait ressenti une telle fatigue. Follement voir les loups se coucher, harassés de fatigue à force de rester debout, quand bien même une fois allongés, ils auraient remué légèrement, il aurait préféré les voir étendus. Mais les loups ne se couchèrent pas. Ils se tenaient en éventail, à 5 ou 6 pas de l'aïeul, et soutenaient son regard. On aurait dit des rocs longtemps battus par le vent et la pluie. L'aïeul entendait le crissement ténu du mouvement de leurs prunelles. Il voyait, soufflés par le vent, les poils de leur fourrure étincelés. Il pensa, « Est-ce que je vais pouvoir tenir plus longtemps qu'eux ?» Il dit, « Quitte à mourir, il faut que tu tiennes plus longtemps qu'eux. Chacun d'entre eux a 4 pattes, tandis que toi, tu n'en as que 2, et tu es un vieillard de plus de 70 ans. » Il dit, « Seigneur du ciel, la nuit vient juste de tomber, et je me retrouve avec des crampes. Tu veux donc sans raison me jeter dans la gueule de ces bêtes sauvages ?» L'un des petits loups ne parvenait plus à se tenir sur ses pattes. Il s'étendit sans même jeter un coup d'œil au roi de la meute. Puis, à sa suite, l'autre petit loup se coucha lui aussi. Le roi les regarda et mit un long hurlement pourpre. Les 2 petits tournèrent la tête en même temps, répondirent par un brin de gémissement faible et tendre, puis la meute redevint silencieuse. La fatigue s'était d'abord emparée des 2 petits loups, mais bientôt, comme contaminé, l'aïeul sentit ses jambes faiblir. Il voulut les remuer un peu, mais il ne réussit qu'à contracter ses muscles, faisant bouger sa rotule de haut en bas. Il reprit sa posture raide et droite. « Tu ne dois pas laisser les loups s'apercevoir que tu flanches, comme les 2 petits. » Il pensa. Il suffit que tu laisses paraître un signe de fatigue et ils s'approcheront pleins de force et d'audace. Si tu parviens à rester debout, sans bouger, tu vivras, dit-il. Mais si tu bouges, tu es mort pour l'éternité. La lune se déplaçait depuis l'est vers le sud-ouest. Sur la face de l'astre, des nuages flottaient. Il en respira l'odeur de chaleur sèche. En déduisit que le soleil se lèverait de nouveau le lendemain dans un ciel dégagé, que sur la balance, à la cime de la montagne, la lumière pèserait au moins 25 ou 30 grammes. Du coin de l'œil, il observa les hauteurs, vit une épaisse nuée à quelques dizaines de pas de la lune. Il pensa, quand la lune arrivera à leur niveau, elle projettera l'ombre des nuages jusqu'ici. Cela durera un moment. Il tint bon, droit comme un i, jusqu'à ce que l'ombre s'étende comme prévu. Alors, tandis que la soie noire frôlait son corps, sans aucun bruit, il fléchit les jambes, l'une après l'autre. Il sentit immédiatement le sang circuler de nouveau dans tout son corps. Une vigueur nouvelle descendit de son buste vers ses genoux. Il se redressa. Les crochets fixés à la phalange émirent un déchirement rauque de papier mouillé. Juste à ce moment-là, tandis que l'ombre se déplaçait vers les loups, les petites lueurs vertes bougèrent, s'avancèrent vers lui comme d'énormes lucioles. Il poussa un cri de fauve et se mit à marteler les parois de coups de phalange. Un éboulement s'ensuivit, coulant un torrent de pierres de sable. Lorsqu'il cessa, l'ombre avait glissé du goulet d'étranglement jusqu'à l'entrée du ravin. L'aïeul vit 5 loups tout près de lui, à 4 ou 5 pas à peine. Il se félicita d'avoir un peu relâché la tension de son corps à la faveur de l'ombre. Cela lui avait donné la force de produire assez de bruit pour arrêter la progression des loups, assez de force pour tenir sa posture jusqu'à la seconde partie de la nuit. Il pensa, « J'ai 72 ans. J'ai traversé plus de ponts que vous n'avez parcouru de chemin. » Il pensa, « Si je ne tombe pas, vous n'aurez pas l'audace de vous approcher. » Il pensa, « Comment les loups peuvent-ils avoir peur du regard courroucé d'un homme debout et immobile ?» Il pensa encore, « La moitié de la nuit est passée, sinon mes paupières ne seraient pas si âpres. » Il dit, Surtout, il ne faut pas t'assoupir. Si tu somnoles, tu perds la vie. L'aveugle et le pied de maïs attendent ton retour. Les deux petits loups couchés fermèrent les yeux. L'aïeul vit la lumière des deux plus brillantes émeraudes clignoter avant de s'éteindre, exactement comme celle d'une lanterne. Très doucement, il fit glisser sa main droite le long de la palanche jusqu'à ce qu'elle touche l'autre main. Alors il se pinça très fort le poignet gauche. Il sentit une douleur aiguë monter du poignet jusqu'à ses paupières, piquant l'ensommeillement naissant comme la pointe d'une flamme, gagnant ensuite la clarté lunaire au-dedans du ravin. Alors il ramena sa main droite à sa place d'origine. De nouveau, un loup se coucha. Un loup de taille moyenne cette fois. Ses paupières recouvrirent aussitôt la lueur émeraude. Le roi loup émit un gémissement nasal. Le loup de taille moyenne cligna un instant des yeux avant de les fermer néanmoins. Dans la nuit profonde, le temps s'écoulait, ruisselant comme une eau fraîche. On aurait dit que quelques étoiles manquaient dans le ciel, que la lune dispensait une froidure mélancolique. L'aïeul recommença à battre des paupières. Il leva discrètement un pied pour écraser son autre pied. Ses paupières se firent un peu moins lourdes. Il jeta un coup d'œil à la lune et aux étoiles. Il savait qu'il avait déjà tenu la première moitié de la nuit. Un lointain coup de gong annonçant la seconde moitié sonnait déjà. Il n'aurait qu'à continuer à se tenir droit et immobile, sans faire aucun bruit, et le sommeil gagnerait la meute. En effet, il les gagna tous, les loups et l'aïeul, infiltrant corps et âme. Trois loups encore se couchèrent. Le faible gémissement de colère du roi loup ne les en empêcha nullement. Finalement, seul le roi restait debout. Ne voyant plus briller que deux émeraudes, l'aïeul éprouva une grande satisfaction intérieure. Il pensa « Il suffit que celui-là se couche aussi et ça ira. Qu'il se couche et je pourrai remuer discrètement tous les muscles de mon corps. » Mais le roi loup ne se coucha pas. Il quitta même le centre de la meute pour se placer en tête. Croyant qu'il avancerait résolument jusqu'à lui, l'aïeul sentit son dos se tremper de sueur froide. Il se mit à agiter vigoureusement la palanche au-devant de lui. Contre toute attente, le loup ralentit, fixa l'aïeul du regard, fit encore quelques pas, esquissant un demi-cercle, puis, foulant la clarté lunaire, retourna au centre de la meute, s'étendit et ferma les yeux. Toutes les lanternes s'étaient éteintes. L'aïeul soupira longuement et profondément. Il sentit ses jambes se ramollir. Sur le point de tomber, la peur fit battre son cœur plus fort. Il se redressa. Juste à ce moment-là, il s'aperçut que le roi loup continuait à guetter, ouvrant les yeux de temps à autre. L'aïeul ne s'endormait pas. Il pensait « Le roi loup attend que tu t'endormes. » Il chercha à tâtons une longue tige rampante près de lui, l'arracha, puis défit sa ceinture en tissu rouge et encore les deux crochets de la palanche. Il relia ces quatre morceaux, en fit une longue corde. Ce faisant, il produisait sciemment le plus de bruit possible. Il vit quatre loups ouvrir les yeux pour le regarder un instant, puis les refermer. Ça va sans dire, ils dorment profondément. Sous les pâles rayons lunaires, les neuf loups couchés ressemblaient à un champ fraîchement retourné. Une mauvaise odeur émanait, froide, de ces monticules de terre. L'aïeul quitta ses chaussures dans l'exhalaison fétide Retenant sa respiration, il fit deux pas sur la pointe de ses pieds nus, tendit la corde qu'il attacha devant lui de part et d'autre du passage, recula, fixa le bout de la corde à son poignet et enfin à la palanche. Il s'appuya contre la paroi rocheuse et ferma les paupières. L'aïeul s'endormit.